France Musique. Musique et moi.
Laurent Pelly,
Priscille Lafitte, France Musique.
Toute ma vie, je me suis battu contre la réalité et je suis heureux de l'avoir enfin emportée.
Bonjour Laurent Pelly.
Bonjour.
Bienvenue dans Musique et moi. Vous avez tiré votre citation introductive d'une réplique de la dernière pièce de théâtre que vous avez mise en scène, Harvey, une pièce écrite par une certaine Mary Chase en 1944, montée au TNP, au Théâtre National Populaire de Villeurbanne, avec Jacques Gamblin sur scène. Et vous utilisez cette musique de Mauricio Kagel. De quelle façon ?
Elle accompagne tout le spectacle. Mauricio Kagel est un compositeur que j'aime depuis longtemps, que j'ai découvert d'ailleurs avec Variété, qui était un spectacle de cirque il y a fort longtemps. Mais c'est un compositeur qui a accompagné plusieurs de mes créations parce qu'il est magique pour moi, parce qu'il allie à la fois la théâtralité, le comique, l'humour, la gravité, et c'est ce que j'apprécie le plus au théâtre.
Toute ma vie, je me suis battue contre la réalité scénique, la réalité...
Alors, c'est pas moi qui me suis battue, c'est le personnage de Elwood, qui est joué par Jacques Gamblin, et qui dit avoir un ami invisible qui est un grand lapin d'un mètre 80. Moi, je me suis pas battue contre la réalité, mais si je travaille depuis longtemps, et si j'ai monté autant de spectacles, c'est peut-être pour échapper un peu à la réalité.
Je trouve intéressant qu'on débute cet entretien par l'aspect théâtral de votre travail, parce qu'on va écouter énormément d'extraits d'opéra, à commencer par l'Élixir d'amour qui est sur scène en ce moment à l'Opéra Bastille jusqu'à début novembre, avec dans cette distribution Sidney Mancasola dans le rôle d'Adina. Poser le décor de cette émission, vous voulez à la fois metteur en scène de théâtre et d'opéra. On vous connaît surtout en tant que metteur en scène d'opéra sur France Musique, évidemment. Mais on va seulement parler au cours de cette émission de la différence entre une musique choisie au théâtre, là c'était la musique de Maurizio Kagel, et une musique, on va dire, contrainte, qui est l'opéra, là, la partition de Donizetti dans l'Élixir d'amour. Nous allons faire votre portrait musical ce matin, Laurent Pelli, du moins s'il est possible de résumer en une dizaine de musiques et l'immense répertoire que vous avez abordé à ce jour. Je ne peux pas toutes les citer, ces mises en scène, mais vous avez quand même abordé quasiment toutes les œuvres d'Offenbach, de la vie parisienne au Comte d'Hoffmann, en passant par Barbe Bleue. Non,
Pas toutes, il y en a 75, je crois.
Oui, mais aussi Platée de Rameau, Ariane Anaxos de Richard Strauss, donc quelque chose de très varié, plusieurs Rossini, dont Le Barbier de Séville et le Contori, plusieurs Donizetti, dont Une fille du régiment qui a fait date, encore L'heure espagnole de Ravel, Péléas et Mélisande de Debussy, des opéras de Massenet aussi, dont une Manon sur la scène du Metropolitan Opera. Bref, la liste est très longue. Mais quel est donc votre rapport à la musique, vous, personnellement, Laurent Pelli? Comment parvenez-vous à faire du théâtre dans l'opéra, à insuffler de la vie dans les livrets, avec l'aide, je crois, de la dramaturge qui travaille toujours en binôme avec vous, Agathe Mélinan. Nous allons écouter ce matin beaucoup d'extraits d'opéra, bien sûr, mais aussi des musiques de films, des musiques en tout cas contrastées, rythmiques, bigarrées, à l'image de votre travail, Laurent Pelly. Nous allons être entourés des compositeurs Rossini, Ravel, Poulenc, Offenbach, Michel Legrand et Charlie Chaplin. Et d'emblée, on comprend que le décor de cinéma et la magie de l'enfance sont des inspirations pour vous. L'enfance, on y plonge immédiatement avec l'histoire du soldat de Stravinsky. Vous venez de me dire que vous n'avez pas écouté cette musique depuis très longtemps. Depuis quand ?
Je ne sais pas, mais c'est le premier spectacle musical que j'ai, si ce n'est le premier spectacle que j'ai vu étant enfant. Je devais avoir 7 ou 8 ans.
Donc l'histoire du soldat de Stravinsky, ouais. Ici un enregistrement de Charles Dutoit.
Ouais, et c'était au théâtre de la Tempête à la Cartoucherie. C'était Jean Babilet qui mettait en scène et qui dansait, enfin qui jouait le soldat. Et j'en garde un souvenir... comme une espèce de fête, voilà, ça m'a marqué. Je crois que c'est le premier spectacle que j'ai vu dans ma vie.
Et en l'écoutant ensemble, on se disait qu'il y a quand même quelques correspondances avec la musique de Maurizio Kagel qu'on écoutait juste auparavant. Même côté soutillant, la rythmique,
et grinçant,
une rythmique prépondérante,
ouais. Joyeux et triste à la fois. Ouais. C'est vrai. C'est une chose qui m'a suivi tout le long de ma vie. Mais je sais pas si c'est l'histoire du soldat qui a tout déclenché, mais Oui, j'étais surpris de la simplicité de cet échange violon-percussion qui est très très fort et qui est très à la fois sarcastique et joyeux, diabolique, ouais. Forcément.
Vous avez déjà des envies de mise en scène quand vous étiez enfant et que vous voyiez ce genre de choses? L'exprimiez peut-être pas comme ça?
Si, parce que j'ai très tôt eu envie de faire ça. C'est-à-dire que à partir de l'âge de 10 ans, avec mes copains au lycée, j'ennuyais tout le monde pour pouvoir réaliser des spectacles, ma famille. Très très tôt, je suis tombé dedans quand j'étais petit.
On entend aussi une forte rythmique. Est-ce que vous êtes sensible à la rythmique d'une musique ? J'ai pensé aussi, concernant Harvey, à la rythmique de la langue, puisque c'est l'anglais qui est traduit en français. Et c'est quelque chose sur lequel vous vous appuyez.
Bien sûr, le rythme, il est fondamental au théâtre, comme à l'opéra, bien sûr, mais Harvey, c'est un vaudeville, c'est un vaudeville mélancolique, et c'est une horlogerie, et tous les jours, je suis en représentation, et tous les jours, on peaufine un temps près. À l'opéra, c'est forcément le rythme est très important. Et très important pour le jeu des chanteurs. C'est-à-dire que moi, je pense toujours que mon travail, avant tout, c'est de mettre la musique dans le corps des chanteurs. Les chanteurs ont la musique dans l'esprit, dans la tête, dans l'oreille, mais pas forcément dans le corps. Et pour moi, le rythme, le dessin de la musique est la mise en scène. Souvent, je ne fais que, alors tout ça est très subjectif, mais je ne fais que mettre en scène la musique, c'est-à-dire, alors il y a des œuvres qui marchent très très bien comme ça, d'autres moins bien. Donizetti, par exemple, sur les comédies, c'est extraordinaire parce que c'est, on a l'impression qu'il écrit le mouvement des personnages.
C'est donc par les spectacles pour enfants que vous avez débuté aussi en tant qu'adulte dans votre travail de mise en scène. Est-ce que les spécificités de ce spectacle-là, de devoir capter l'attention d'un public très jeune, vous en nourrit longtemps. Je propose qu'on écoute L'amour des trois oranges de Prokofiev pour pouvoir en parler.
Garde.
donc un extrait de L'amour des trois oranges. Ici, Gabriel Baquier dans le rôle du roi de trèfle. Jules Bastin chante La cuisinière. Et Jean-Luc Viala, le prince. C'est un opéra que vous avez mis en scène, Laurent Pelly. C'est un des meilleurs opéras pour enfants dont on puisse rêver, non?
C'est pas particulièrement un opéra pour enfants. Ça parle de l'enfance, mais c'est un opéra magique, mystérieux, dramatique, extrêmement théâtral. C'est un conte de fées, mais c'est un conte de fées très très caustique et très cruel, avec une musique extraordinaire. Alors quand je disais tout à l'heure mettre en scène la musique, quand on met en scène L'amour des trois oranges, j'ai presque l'impression qu'il suffit d'ouvrir grand ses oreilles et, enfin, l'image, moi, m'apparaît quasiment.
Quel était votre rapport à l'opéra quand vous étiez enfant? Vous nous avez parlé rapidement de l'histoire du soldat de Stravinsky.
Je suis jamais allé à l'opéra enfant. Je faisais de la musique. Mes parents nous ont poussé, ma sœur et mon frère, à faire de la musique. On était dans un chœur, dans une chorale.
Vous jouez d'un instrument aussi?
Je jouais du hautbois, mon frère jouait du cor.
Dans un orchestre?
Non, j'ai commencé. Et puis l'enseignement, d'abord c'est un instrument très difficile. Et puis j'étais un peu rétif, rebelle à l'enseignement du conservatoire. Je trouvais qu'ils n'enseignaient pas assez le plaisir de ça. C'était juste par moment une souffrance.
Donc vous avez plus accroché avec le chœur, avec le travail de la voix?
Oui, parce que je suis resté 10 ans dans un chœur. Donc forcément, avec mon frère, alors ça pour le coup, avec mon frère et ma sœur.
Vous avez travaillé aussi le chant de façon individuelle?
Oui,
seulement
un peu.
Non,
c'est, pour moi,
ensemble chorale.
Ça, le chant, c'était plus tard. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait de l'opéra, même, je trouvais ça important d'essayer de comprendre comment ça marchait. Donc j'ai fait du chant.
C'est essayé sur vous.
Oui, parce que, et puis de toucher au répertoire, voir comment c'était foutu, comment c'était écrit pour les voix. Donc ça, j'ai fait ça 5-6 ans. Voilà. Après, maintenant, j'ai malheureusement plus le temps d'en faire, mais voilà,
ça
me paraissait important. Comment?
Ça vous a appris quoi de l'expérimenter vous-même?
Bah, la difficulté, tout bêtement, c'est-à-dire que moi je suis extrêmement, je trouve que chanter sur scène, enfin chanter des grands rôles du répertoire, je trouve ça d'une difficulté inouïe. Je suis extrêmement admiratif de ces artistes, ces grands artistes. Après, ça m'a appris le rapport de la musique et de l'interprétation et comment on arrive à raconter un personnage avec quand on lit juste une partition. Et toucher à ça, sans forcément y répondre, mais en tout cas se poser les questions.
Il était une fois à la cour d'Eisenach. Un petit avorton qui s'est nommé Clensac. Il était coiffé d'un colbac et ses jambes faisaient clic-clac, clic-clac. Clic-clac, voilà, Kleinsack. Clic-clac, 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 voilà. Ses pieds ramifiés semblaient sortir d'un sac. Son nez était noir de tabac et sa tête faisait cric-crac, cric-crac, cric-crac. Voilà, Kleinsack. Cric-crac, cric-crac, cric-crac. Voilà, sa figure. Quand au
Jonas Bourne, dans les contes d'Hoffmann, dans ce fameux air, un des premiers airs des contes d'Hoffmann, va pour Kleinzart. Vous avez été happé par le monde de l'opéra au travers d'Offenbach.
Oui,
on peut dire ça?
Absolument.
Enfin, vous aviez monté, je crois, une opérette. La fille de Madame Angot.
Ah non, c'était pas la fille de Madame Angot, c'était Madame Angot qui est l'origine de l'opérette, qui est une pièce
de théâtre
qui datait de la Révolution.
Ouais, donc vous êtes bel et bien, vous êtes entré dans l'opéra
par
les partitions d'Offenbach.
Oui.
Est-ce que c'est pratique d'entrer à l'opéra par l'opéra bouffe? Est-ce que ça permet des choses?
Oui, parce que c'est... Alors, moi, je m'exprime principalement dans la comédie. Donc, pour moi, c'était une sorte d'évidence. Et puis, le premier opéra bouffe qu'on a monté, c'est Orphée aux Enfers. Et Orphée aux Enfers était un disque qu'on écoutait souvent en famille. Donc, c'est une chose qui s'est faite assez naturellement. Après, la rencontre avec Marc Minkowski a été prédominante et très importante pour moi, parce que c'est quelqu'un qui m'a appris la théâtralité dans la musique aussi. On a enchaîné quasiment Orphée aux Enfers et Platée, Platé qu'on va reprendre cette année à l'Opéra de Paris. Et c'est Marc qui m'a mis le pied à l'étrier, et je dois dire que je lui dois beaucoup.
Orphée aux Enfers avec Laurent Naouri
et Nathalie
Dessay. Ces deux chanteurs aussi ont été fondamentaux,
oui, oui.
Comme rencontre pour cet alliage entre le théâtre et l'opéra, et des choses ont été possibles
bien sûr,
avec cette collaboration-là.
J'ai la chance aussi, moi je crois beaucoup à l'esprit de troupe, et c'est très difficile d'insuffler un esprit de troupe dans une distribution d'opéra, parce que souvent le metteur en scène, il arrive le dernier dans la production. Souvent on monte des productions pour certains chanteurs. Mais par hasard, et puis aussi par hasard, Nathalie et Laurent, on a fait beaucoup de choses ensemble. Laurent Naouri, je pense que c'est l'artiste avec lequel j'ai le plus travaillé. On remonte par exemple Cendrillon de Massenet au Met cet hiver. Ben, il est au Met encore. Et puis ensuite, nous ferons Cosy ensemble au Théâtre des Champs-Élysées.
Nathalie Dessay, qui demande à être nourrie théâtralement, c'est vraiment quelque chose qu'elle a mis en avant, le fait d'être comédienne ou actrice sur scène avant même d'être chanteuse ou parallèlement au chant. Est-ce que vous l'avez aidée à pousser loin ces possibilités théâtrales?
On s'est aidé mutuellement, parce que c'est aussi elle qui m'a appris cette exigence-là. Vous savez, quand j'avais monté un certain nombre de spectacles de théâtre, mais quand vous commencez une production d'opéra telle qu'Orphée aux Enfers avec un grand chœur, c'était la première fois, c'était au Grand Théâtre de Genève, ensuite à l'Opéra de Lyon. C'était assez impressionnant, et toute la machine qui va avec. Et Nathalie, d'abord, on s'est beaucoup pas amusé quand même, parce que Offenbach en général, ça demande beaucoup de travail, bien sûr, beaucoup de précision, comme
de
toujours, de rigueur dans la comédie. Mais c'est très important de s'amuser. Et Nathalie, je ne sais plus de quelle production elle sortait, elle avait envie de changer d'air, je dirais. Et puis c'était à cette époque, c'était une bombe, Nathalie, vocalement. Ça reste un souvenir merveilleux.
Oh.
Nathalie Dessay, dans l'air d'Adèle, tiré du Contori de Rossini. Vous ne connaissiez pas cet enregistrement, vous
m'avez Non, dit, je ne savais pas que Nathalie avait enregistré ça.
Alors, comment on fait pour insuffler un peu de comique dans le jeu d'un chanteur? Parce qu'un chanteur n'est pas forcément formé pour cela. Il vient d'abord à l'opéra pour projeter une voix. Comment on peut lui... Quels sont les trucs de direction d'acteur?
C'est pas forcément insuffler du comique, c'est insuffler du jeu. C'est-à-dire c'est servir de la musique, s'appuyer continuellement sur la musique pour...
Donc partition à l'appui, par exemple pour Rossini, ça se joue dans les notes.
Bien sûr, oui. Sur les répétitions, par exemple, sur le bel canto en particulier, qu'il soit comique ou tragique, quand un personnage répète 10 fois la même chose, vous pouvez pas laisser le personnage raconter 10 fois la même chose, radoter. Il faut absolument inventer avec l'interprète pourquoi il répète 10 fois la même chose et comment son jeu justement peut évoluer pendant ces 10 fois. Alors c'est un échange, j'ai pas de recette particulière, c'est l'échange avec le chanteur à partir du moment où il accepte d'utiliser les notes pour exprimer un sentiment scénique. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Des fois, c'est difficile parce que c'est encore une fois le bel canto en particulier, c'est extrêmement difficile. Donc, si un chanteur n'accepte est préoccupé par sa voix, ce que je peux comprendre aisément, préoccupé par sa ligne de chant, c'est très difficile de le déstabiliser. Moi, je suis pas là pour déstabiliser les chanteurs. Bien au contraire, moi, je pense toujours que et le jeu et la contrainte scénique les aident à chanter.
Est-ce que les choses se jouent aussi au moment d'établir la dramaturgie, le livret? C'est le travail que vous faites avec Agathe Mélinan, qui est une proche collaboratrice pour vous. Est-ce que ça se joue aussi à ce moment-là?
Sur les Offenbach, oui. Agathe, elle réécrit la plupart du temps les dialogues. Et à partir du moment où elle réécrit les dialogues, on réfléchit au personnage, on réfléchit à comment on va raconter l'histoire et comment tel ou tel personnage va être.
Et comment elle intervient, par exemple, pour un Rossini? À quoi elle va toucher?
Alors ça, c'est plutôt un échange qu'on a ensemble sur la manière de raconter l'histoire. Mais le travail, il est moins important que sur des Offenbach ou sur des œuvres qui alternent entre musique et dialogue.
Oui, le Donizetti, par exemple, qu'on peut voir en ce moment.
Alors Donizetti, c'était beaucoup sur l'histoire du souvenir d'enfance, sur l'énergie, je dirais, des personnages, sur le côté peste de Adina, et puis sur même physiquement comment sont les personnages. Et puis c'est un travail qui peut se faire une fois qu'on a commencé, c'est pas forcément en amont, mais une fois qu'on a commencé à répéter avec les interprètes. Parce que vous savez, souvent on réfléchit, on rend les maquettes de décors et de costumes 1 an avant la production. Donc on rêve à quelque chose, on ne connaît pas forcément les interprètes. Puis arrive le premier jour de répétition, puis on se dit, ah mince, c'est pas tout à fait comme ça que je le voyais. Donc vite, il faut changer son fusil d'épaule, se servir de la personnalité du chanteur pour raconter le personnage.
Ashes to ashes.
Last Breath, la chanson qui clôt le cycle composé par Michel Legrand pour Nathalie Dessay, Between Yesterday and Tomorrow.
France Musique,
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Le metteur en scène Laurent Pelly est l'invité de Musique et moi ce matin. Vous accompagnez toujours le travail de Nathalie Dessay, encore aujourd'hui. Comment conseiller une personnalité qui souhaite ainsi quitter le firmament de l'art vocal à l'opéra pour mettre en valeur sa voix de chanson théâtralement? C'est différent comme accompagnement?
J'ai pas besoin de conseiller Nathalie Dessay. Elle a envie de ça. Elle a envie d'aventure théâtrale. Je dirais plus que des chansons. Elle a envie d'être actrice. C'est une actrice. Voilà, tout bêtement.
D'un bout à l'autre, bien sûr, voilà, sa carrière.
C'est une actrice. Après, on a plusieurs projets, qu'ils soient musicaux ou non. Ce qui est toujours intéressant, c'est d'imaginer du jeu avec elle, voilà, de s'amuser aussi avec elle, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, une vitalité extraordinaire et un immense talent. Donc le point de départ de Michel Legrand. C'est comme ça qu'elle a rencontré Michel Legrand. C'est un spectacle qu'on avait créé avec Agathe Mélinon à Toulouse. À l'époque, on était directeur du Théâtre National de Toulouse parce que on avait envie justement de faire autre chose que de l'opéra avec Nathalie. Puis c'est comme ça qu'on a fait un très beau spectacle qui s'est joué malheureusement 3 fois à Toulouse avec un grand orchestre sur les chansons de Michel Legrand, sur les tubes, sur les... Et puis c'est comme ça qu'elle a rencontré Michel Legrand, puis qu'ils ont eu cette aventure ensemble, cette aventure musicale très très longue, qui s'est terminée par Between Yesterday and Tomorrow, qui est un oratorio qui serait très intéressant de mettre en scène d'ailleurs.
Vous vous êtes intéressé ?
Oui, oui, absolument. Mais c'est un truc énorme, hein, c'est grand orchestre. Donc c'est forcément grand plateau, enfin c'est quelque chose de compliqué à mettre.
Puis, comment on met en scène un oratorio ?
Voilà, c'est un rêve un peu. C'est l'histoire de... C'est la vie d'une femme, en fait, de la naissance à la mort. Moi, ça m'inspire, donc je ne sais pas ce qu'on peut faire avec, mais je suis sûr qu'on peut faire quelque chose.
Nous voici dans le cinéma de Charlie Chaplin, City Lights, c'est l'ouverture de ce film. Ici, ce n'est pas Charlie Chaplin qui dirige l'orchestre, il aurait pu, mais c'est lui qui a composé quand même ses propres musiques. Qu'est-ce que l'art de Charlie Chaplin, de ce rapport entre l'image et la musique, qu'est-ce qu'il vous enseigne là-dessus ?
Alors, c'est plutôt le rapport du corps et de la musique. Moi, je suis, comme beaucoup de gens, mais totalement fan absolu de Chaplin, comme de Keaton aussi. Mais Chaplin, c'est toujours très musical. L'ouverture de City Lights avec la scène de la statue, l'inauguration de la statue, lui qui dort dans la statue, c'est absolument génial. Tout est musical, le moindre petit détail est dans la musique, est très 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 drôle, irrévérencieux, osé, joyeux. C'est l'amour absolu, Chaplin. Et tous les grands comiques. Tous les grands comiques du muet ont ça en commun, c'est que ils sont d'abord très drôles, mais ils sont tous quasiment très tristes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la gravité dans le rire. Chaplin, même Laurel et Hardy. Laurel et Hardy, c'est désopilant, mais c'est extrêmement noir.
Il y a une rythmique aussi dans le corps qui est très
dans
présent.
Dans le comique, de toute façon, le comique, c'est du rythme. J'en fais l'expérience tous les jours avec Harvey ou d'autres choses dans l'opéra. Le comique, c'est du rythme. Je dirais presque à la seconde près, une réplique peut être entendue, être drôle ou pas, ou un mouvement, être vu, pas compris, c'est de l'horlogerie.
Oui, mais j'imagine qu'au théâtre ou à l'opéra, c'est différent.
Alors, à l'opéra, il y a le chef d'orchestre. Oui. Voilà. Donc, et puis, vous n'êtes pas seul maître à bord. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de travailler en collaboration avec le chef. Ça, c'est passionnant. C'est merveilleux, même. Je conçois même pas qu'on puisse ne pas travailler main dans la main avec le chef d'orchestre.
Par exemple, de quoi vous pouvez parler avec un chef d'orchestre? Ça repousse sur quoi?
Les tempi, les accents, ce qu'il a envie, lui, de mettre en avant, comment moi je peux me servir de ça, ou moi je peux lui indiquer telle ou telle chose que j'entends qu'il n'entend pas forcément, que je vois, voilà, et ensuite c'est une collaboration, parce que c'est quand même du théâtre, l'opéra, donc il faut faire ça ensemble.
Et j'ai envie de vous dire, et inversement, est-ce que le théâtre est aussi un peu d'opéra? Par exemple, lorsque vous travaillez avec Jacques Gamblin, comment vous faites pour marquer ce moment de rythme, de surprise, tout ça, quand vous parlez avec quelqu'un qui n'a pas cet appui musical?
Alors lui, il est très très il est très physique, il travaille vraiment dans le corps, ça prend beaucoup de temps, et puis les comédiens avec lesquels je travaille aussi, on travaille aussi au millimètre, et puis après il y a le rapport au public, la différence aussi avec l'opéra. Bien que à l'opéra aussi, le public, c'est un échange. Mais là, sur une pièce comique, c'est un échange entre l'acteur et la salle continuellement.
Il n'y a pas la fosse qui vient entre les deux, c'est ça?
Voilà, là, il n'y a pas la fosse. Et puis on crée son propre rythme. Si l'acteur décide de ralentir ou d'accélérer ou de faire entendre telle ou telle chose, ce qui est très beau avec les grands textes aussi, c'est que d'un jour sur l'autre, on n'entend pas forcément la même chose.
Señor Torquemada, por l'ouche de Tolède.
Torquemada, c'est moi, monsieur.
Ma montre à chaque instant s'arrête.
Voilà qui va de mieux, voilà qui va de mieux.
Or, je suis à votre service, muletier du gouvernement. Connaître l'heure exactement, en conséquence, c'est mon office. Car chaque jour, à heure fixe, mes mulets doivent sur leur dos emporter les colis postaux.
Voyons la montre. Elle est de style.
Oui, c'est un bijou de famille. Mon oncle le toréador, par elle fut sauvé des cordes de la mort. Aux arènes de Barcelone, à l'autre port au français. C'est un autre, son gousset, le préserva du coup de corne. Mais si le monstre par la montre fut arrêté, c'est à présent la montre qui s'arrête.
Nous allons donc la démonter. On m'appelle ma femme. Tata, elle toque et mada, le diminutif est de charme.
Mais quoi? Vous n'êtes pas portée? Des fourderies sans égale. Vous souvient-il plus qu'aujourd'hui, il faut aller régler comme chaque jeudi les horloges municipales.
Mais quelle heure est-il donc?
Comment?
Que voulez-vous? Les horloges, messieurs, on n'entend plus leur coup. Ce serait à devenir fou.
Pourquoi? Depuis que je vous en réclame une pour ma chambre à coucher. Gardez ici ces deux horloges catalanes.
Si vous croyez que c'est léger une horloge et facile à prendre.
De force musculaire, oui, vous avez sujet de vous montrer avare, ou du moins ménager. Vous n'en avez pas à revendre.
J'ai mes outils, j'ai mon chapeau.
Pardon, monsieur, pardon, pardon.
Je cours, je me suis, je cours. Demeurez jusqu'à mon retour.
Voilà qui ne fait pas beaucoup.
Excusez-moi, je reviens de ce pas. Leur officielle n'attend pas.
C'est un extrait de L'heure espagnole de Ravel, une captation à l'Opéra de Paris avec dans la distribution Sophie Koch, Yann Beuron, vous avez retrouvé ici Yann Beuron, Jean-Paul Fauchécourt et Seiji Ozawa à la direction. Sophie Koch, qu'on a l'habitude de voir sur la scène de l'Opéra de Paris en wagnérienne, et là vous l'avez complètement transformée dans ce rôle.
Oui, c'était un peu un pari et moi je sortais d'une production d'Ariane Anaxos avec Sophie, où elle était extraordinaire dans le rôle du... Elle l'est toujours, d'ailleurs. Je ne sais pas si elle le chante encore, mais dans le rôle du compositeur. Et on s'inquiétait, même tous les deux, de savoir comment le personnage allait naître. Et voilà, ça a dépassé totalement nos espérances.
Il y a aussi une joie, j'imagine, de travailler sur la musique de Ravel. Vous parliez d'horlogerie jusqu'à maintenant.
Absolument. Et puis c'est l'heure espagnole, ça a été ma première collaboration avec Seiji Ozawa, et qui aussi est un quelqu'un qui s'amuse beaucoup, qui est extrêmement sérieux, bien entendu, mais qui s'amuse beaucoup dans le jeu et avec les chanteurs. CJ, il est extraordinaire parce que il apprend les partitions par cœur et donc il ne regarde pas la partition et il est tout le temps avec les chanteurs sur le plateau et c'était un immense plaisir de regarder juste sa tête dans les retours du chef d'orchestre sur scène parce qu'il joue tous les personnages. Donc ça, c'était un immense souvenir.
On parlait aussi de cinéma un peu plus tôt avec Charlie Chaplin. Voilà aussi un rapport que je trouve très cinématographique à la mise en scène dans cette production-là.
Dans l'heure espagnole, oui, bien sûr. Alors, mais ça, c'est encore une fois, je disais tout à l'heure, il y a des œuvres qui s'y prêtent. C'est-à-dire que le moindre accord a du sens. On sent que Ravel n'a pas écrit ça juste pour faire de la belle musique. C'est-à-dire qu'il écrit du théâtre au même titre qu'un écrivain. Et l'heure espagnole a ça de particulier, c'est que c'est une œuvre très française, très à double sens, triple sens, très grivoise. Et Ravel, il s'amuse tout le temps avec ça. Donc il y a un rapport du texte et de la musique qui est fantastique.
Vous pouvez vous appuyer sur sa partition, un peu comme pour Rossini, si je comprends bien. Il y a quelque chose de...
Oui, c'est plus plaisant. Parce que Rossini, il faut chercher. C'est-à-dire que Rossini, c'est pas évident. Il faut creuser. C'est un peu moche ce que je vais dire, mais Rossini, il faut fournir. C'est-à-dire il faut inventer tout le temps, il faut chercher à inventer tout le temps parce que il y a beaucoup de répétitions. L'heure espagnole, c'est du théâtre mis en musique, donc il y a aucune répétition déjà, donc c'est pain béni pour le metteur en scène.
C'est une évidence.
Mais une évidence.
Thank you. L'Allegretto du concerto pour piano FP146 de Francis Poulenc, ici interprété par Éric Lesage, aux côtés de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, dirigé par Stéphane Deneuve. On parlait de gravité dans le rire un peu plus tôt avec vous, Laurent Pelly. Il y a de ça chez Poulenc.
Il y a de ça absolument, et c'est pour ça que j'affectionne particulièrement ce compositeur, que ça soit dans des œuvres orchestrales mais ou lyriques. On est tout le temps dans la surprise, on bascule dans la noirceur ou le mélodrame presque, et puis un pied de nez vient tout changer, tout basculer. Voilà, je suis fou de Francis Poulenc.
Que vous allez travailler prochainement.
Voilà, que je vais mettre en scène au festival de Glyndebourne l'été prochain avec les Mamelles de Tiresias. Alors les Mamelles, là c'est l'exemple parfait, parce que c'est de la musique. Francis Poulenc s'amuse complètement en écrivant cette pièce, et puis c'est une pièce de théâtre surréaliste d'Apollinaire. Donc on est dans une invention, d'une imagination, d'une sorte de délire psychédélique surréaliste qui est merveilleux.
Et vous monterez aussi la voix humaine.
Oui, en première partie.
Avec Stéphanie Doustrac. Oui. Par où commencer ce travail, par exemple? Vous commencez par la partition, vous commencez par l'écoute?
Alors, encore une fois, ça dépend des œuvres. Bien sûr, c'est d'abord la partition, l'écoute.
L'écoute en aveugle, c'est-à-dire...
Oui, ouais. S'imprégner de l'œuvre. Et ensuite, en ce moment, je suis en train de préparer l'Acmé. Donc ensuite, c'est éplucher la partition, voir comment c'est construit. Et puis après, c'est passer son temps à rêver. Le travail de mise en scène, en général, ça commence 2 ans et demi, voilà, 2 ans avant les répétitions. Et puis, il y a plusieurs mois de préparation dramaturgique ou scénographique, ou pour les costumes aussi. On rend la maquette un an avant.
Mais vous passez du temps à rêver avec la partition sous le nez.
Alors ensuite, j'aime bien travailler beaucoup et puis oublier. Et puis laisser la chose mûrir, et puis assez peu de temps avant les répétitions me remettre sur le concept, sur le travail préparatoire. Mais
à quel moment interviennent les personnes qui travaillent souvent avec vous? On a cité pour l'instant Agathe. Il y a aussi d'autres personnes.
Agathe, c'est très en amont.
Très en amont.
Très en amont. Et ensuite, pendant les répétitions, pendant la phase finale des répétitions, Chantal Thomas, qui est la scénographe, avec qui je travaille depuis très longtemps. Alors là, c'est un an et demi avant. Alors il se trouve que c'est moi qui dessine les costumes depuis toujours. Alors ça, c'est un travail que j'aime faire parce que c'est un travail qui m'aide à rentrer justement dans le corps des puisque je dessine le corps des personnages, donc à rentrer dans le corps des personnages.
Vous les dessinez de quelle manière
Je dessine les maquettes comme un costumier. Je suis costumier du spectacle, donc un an avant, il faut rendre une maquette et puis expliquer comment un vêtement est construit, en quoi il est.
C'est ces esquisses que vous rendez ensuite à une maison d'opéra qui travaille dessus. C'est génial.
Oui, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours au théâtre, c'est un peu différent. Parce qu'au théâtre, on travaille plus en collaboration avec les interprètes. On fait ça moins longtemps à l'avance. Mais un ouvrage comme Platée, qui était le deuxième opéra que j'ai monté, qui met en scène le peuple des marais, des grenouilles, la folie, comment représenter la folie. Alors ça, je ne savais pas comment on allait réaliser tout ça. Et puis on a travaillé avec les ateliers magiques de l'Opéra de Paris, les ateliers de costumes, et qui ont réalisé un délire aquatique.
C'est à ce moment-là que vous décidez des couleurs.
Oui, des couleurs, des matières, des l'échantillonnage. Et ça se fait en collaboration avec les ateliers.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
C'est un malheur, c'est le final de l'acte 2 de l'Étoile de Chabrier. John Eliot Gardiner dirige le chœur et l'orchestre de l'Opéra de Lyon. J'imagine que c'est pour les chœurs que vous avez voulu, Laurent Pelly, qu'on écoute ce moment spécifique de l'Étoile de Chabrier. Et on revient ici à vos premières amours musicales.
Bien sûr, parce que c'est un travail que le travail du chœur, c'est un travail que j'adore faire. Donner vie à un groupe, c'est dans la musique, encore une fois, c'est magique. Quand on travaille avec des artistes du chœur, comme à l'Opéra de Paris, qui est vraiment un grand chœur, ou d'autres maisons, c'était un plaisir immense. Mais c'était aussi pour Chabrier, parce que voilà, j'affectionne particulièrement Chabrier. On parlait de la frange entre le comique et le tragique. Là, ce que je trouve merveilleux, c'est que ce final de l'acte 2 de l'Étoile commence tragiquement, puisqu'on annonce la mort du personnage principal, et puis finalement les chœurs qui doivent jouer, bien sûr, finissent par dire on s'en fout puisqu'il est mort, n'en parlons plus. Donc c'est voilà, beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour, et raconter ça avec un chœur, c'est toujours un plaisir fort,
parce que le chœur permet de raconter d'autres choses que de travailler avec un seul personnage.
Ce qui est marrant, c'est de se dire un chœur peut réagir de la même manière, comme au même titre que le chœur antique, c'est-à-dire c'est 30 personnes qui ont la même pensée, ou complètement individuellement, et puis de se servir de ce groupe aussi, comme un groupe qu'on peut rencontrer dans la rue, qu'on peut rencontrer aujourd'hui, c'est l'opinion publique, y a beaucoup de choses à faire, et aussi physiquement, scéniquement, sur les grands plateaux, c'est un outil merveilleux pour raconter une histoire.
Et dans ce rapport au cœur, vous êtes très verdien, en quelque sorte, Laurent Pelly. Thank you. Tutto nel mondo è burla, le finales de Falstaff de Verdi que vous avez mis en scène, Laurent Pelli, au Teatro Real à Madrid, je crois, c'est en mars de l'année dernière. Oui. Ce sont donc les derniers mots de Falstaff et les derniers mots de Verdi, puisqu'il s'agit de sa dernière œuvre et ça veut dire tout est dérisoire.
Le monde est une farce, et voilà, et tout peut être vu avec un œil amusé. Mais une farce est à la fois drôle et cruelle. Et notamment, Falstaff, c'est drôle et cruel. C'est Verdi, mais c'est aussi Shakespeare. Et pour moi, c'est la plus belle adaptation de Shakespeare qui existe en opéra.
Un grand merci, Laurent Pelli, d'être venu dans Musique et moi ce matin. Je rappelle votre riche actualité. La mise en scène de l'Élixir d'amour de Donizetti est en ce moment même sur les planches de l'Opéra Bastille à Paris. Vous préparez une nouvelle mise en scène de Così fan tutte au Théâtre des Champs-Élysées, c'est au mois de mars 2022. Et puis, reprise du Platé de Rameau avec Julie Fuchs en juin et juillet de l'année prochaine également. Et cette pièce Harvey qui est en tournée.
Voilà, et aussi le Songe d'une nuit d'été à l'Opéra de Lille au mois de mai.
Un grand merci à toute l'équipe qui a permis cette émission. Éric Boisset à la technique, Marie Groux à la réalisation, Marie Ferdinand pour la préparation et la mise en ligne. À la semaine prochaine pour un nouveau Musique et moi.
À réécouter sur francemusique.fr.